Je voudrais dire merci à tous les élus du territoire des 14 communes qui sont concernées. Les 14 communes, il y a le canton de Caire dans la totalité, encore qui sont dans le PNR. Et le canton de Pradelles, il y a 6 communes qui sont dedans. Il y a Landos, Saint-Paul-de-Tapas, Pradelles, Saint-Étienne-du-Vigan, Roré, Saint-Aran, et je crois que c'est tout. Voilà. Alors ça fait un total de 14 communes. Oui, 14 communes, ça fait 14 conseils municipaux. Si je mettais que 10 par mairie, ça aurait fait 140. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je vois que Luc, il est content parce que j'y ai dit que s'il n'y en avait pas 10 personnes, on arrêtait. Alors j'étais sûr de gagner. On a parié un séjour, je ne sais pas où, Luc. Qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure? J'ai gagné peut-être. Voilà, alors je voulais être très court dans la présentation. Je voudrais remercier l'association de préfiguration qui est ici, qui travaille depuis le début 2011. Luc va vous raconter toute cette histoire parce que c'est le grand professeur, il connaît tout de A à Z. Le président de l'association, c'est Lionel Rocamp, qui est ici, qui est vice-président à la région Auvergne, accompagné de Guy Lissac, qui est là aussi, en tant que conseiller général et qui est dans le bureau aussi, qui fait partie. Elk, qui est là, qui s'occupe aussi. La dernière fois, c'était Anaïs qui était venu. Mais c'est bien qu'on ait un peu tout le monde, ça permet de connaître un peu tout le monde. Et Luc qui est en train de préparer sur l'écran pour tout vous dire. Vous écouterez sur ce PNR, sur cet avant-projet de charte qui a été élaboré. C'est pas les élus de l'association qui ont fait cette charte, c'est tout le monde. Voilà. Mais il vous le racontera tout à l'heure. Ce PNR se compose de 88 communes. Il y a 186 500 hectares. 30 700 habitants, 52% de forêt, un milieu semi-naturel et 46% de terres agricoles. Ça fait 50-50. Hein. On regarde la télé, on fait 50-50, on fait appel au public, comme aujourd'hui, et puis on verra. Voilà, alors il y a eu déjà, on est à plus de 300 réunions. Alors, c'est pour vous dire, après il ne faudra pas que les gens disent qu'ils ne sont pas informés, on a fait, ils ont déjà fait plus de 300 réunions. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure à table. Voilà. Alors ce parc, c'est un projet, c'est une stratégie qui est pour les prochaines années, sur les 12 prochaines années à venir. Je ne vais pas mieux le dire, je vais m'écourter là. Si vous avez des questions, il faut pas en profiter pour en poser. Ils seront là pour y répondre. Si on peut pas répondre, s'ils ne peuvent pas répondre à tout, ils en noteront. Il y a une secrétaire qui va noter, qui vous dira, on donnera, mais ils sont au top, je peux vous dire. Vu qu'il est au top, il va vous l'expliquer, il est au top. Alors je vais peut-être laisser la parole au président de l'association et je vous souhaite une bonne réunion à tous et une bonne soirée. Merci.
Merci en tous les cas, M. le maire Jean-Paul, pour cet accueil. Merci à tous de bien vouloir passer du temps avec nous ce soir. C'est pour nous, au bout de même de 300 réunions, mais un peu plus. C'est toujours très très agréable de voir un monde qui vient avec nous parler de ce projet-là et ce projet, comme le disait M. Maire, que vous avez écrit tous plus ou moins. Voilà, les gens étaient plus proches du projet. On arrive maintenant à un moment où ce projet, ben, on le porte partout parce qu'on arrive à une étape importante qui est la vie intermédiaire. Vous avez trois avis dans la vie d'un projet de parc. Le premier avis, qui est l'avis d'opportunité, qui lui dit si le territoire peut être à la hauteur d'un label national comme celui des parcs naturels régionaux. Et puis l'avis intermédiaire, qui est en recherche en ce moment, et qu'on vient de recevoir là, qui est, lui, un avis du ministère et de la Fédération des parcs sur le projet. Ce projet qui nous a nécessité beaucoup de réunions. Vous nous avez dit beaucoup de choses sur ce territoire, beaucoup de choses. Nous, on a tenu la plume et on a essayé de l'écrire au maximum auprès de ce que vous vouliez, parce que c'est bel et bien le projet d'un PNR, le projet de votre territoire, pour les 12 ans à venir. Et ça, c'est important. On n'a pas fait appel à un cabinet extérieur, on a fait appel à rien du tout. On a fait appel à ceux qui étaient là, à notre petite compétence, qu'on a essayé de développer avec l'équipe technique pendant maintenant plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Vu que vous ferez un calendrier tout à l'heure avec une flèche. Vous savez, ces fameux calendriers qu'il faut absolument tenir. Il vous le dira. On s'achemine vers une consultation aujourd'hui dans les communes, enquête publique, où là encore, vous pourrez vous exprimer, vous pourrez dire encore des choses. Tout le monde pourra dire des choses. Le commissaire enquêteur fera un travail. Cet avis recueilli-là sera porté après aux communes. Et j'insiste là-dessus parce que c'est les communes, 88 communes du périmètre, qui décideront si oui ou non elles seront incluses dans le périmètre du parc et dans le projet du parc. C'est elles qui vont décider de ça. Et on attend, bien sûr, avec impatience, que les communes et les communautés de communes prennent cette décision, puisqu'après, il faudra que nous transmettions cet avis aux régions, et les régions le transmettront au ministère, et même un beau mercredi après-midi, d'interministériel avec le Premier ministre et les autres ministres, et bien, ils diront si oui ou non. On a été dans le bon sens, vous avez été dans le bon sens, si votre projet vaut le coup, si le territoire est intéressant, etc., et ils donneront le label. Oui, non, moi je pense que les communes seront prononcées et que les habitants seront prononcés à travers l'enquête publique, voilà, ça ira beaucoup, beaucoup mieux et on aura, je pense, plus de problèmes à la fin. J'avais des gens de la Fédération des Parcs ce matin qui nous disaient qu'encore, il y avait eu beaucoup, beaucoup de travail qui avait été engagé, beaucoup de travail de fait, beaucoup de travail dans le bon sens. Par rapport à l'obtention du label, et moi je pense évidemment que non seulement le territoire mérite ce projet-là, vous verrez, il va vous présenter dans deux secondes, mais c'est que l'avenir de ce territoire et l'avenir des habitants, et vous, vos enfants, etc., mérite bien, bien, bien ça au moins. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole au collègue Elissac. Il dira un mot après, bon, très bien. Donc on va directement passer à la présentation de Luc Blondel, et je vous remercie encore d'être si présent aujourd'hui et d'avoir fait gagner le pari au maire. Merci beaucoup.
Bon, est-ce que vous entendez tous au fond de la salle? C'est bon? Si vous n'avez pas entendu, il faut quand même le dire. Levez le doigt, on comprendra. Voilà. Alors soyez attentifs. Merci.
Alors on y va. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous présenter de manière la plus synthétique, la plus simple possible, à la fois la procédure de Blondel et puis le contenu de la charte du parc. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui a été écrit par nous tous pour les 12 prochaines années dans ce projet de parc. Alors je prévois une demi-heure, je vais essayer de ne pas trop dépasser pour laisser vraiment le plus de place possible au débat. Elke Rocher a dû vous distribuer pour ceux qui n'avaient pas une petite brochure de synthèse qui vous permet de prendre connaissance. On a essayé de faire le plus simple possible. La charte, c'est un document qui est quand même relativement important. Elle est disponible sur le site internet. Mais vous avez tous ce document. Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez lever le doigt. Je crois que Elke, est-ce qu'il nous en reste? Il y a encore... Ah ben, on est en rupture. Ah ben, alors ça va pas. On va donner ce défi. Mais si vous voulez nous laisser votre adresse, on peut vous l'envoyer aussi. Donc elle peut faire circuler un papier. À ceux qui ne l'ont pas, vous nous laisserez votre adresse sur la en fond, hein, et puis comme ça vous l'aurez. Alors j'y vais, je vous réponds. Je ferai peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, parce que c'est vrai que maintenant ça fait 3 ans et demi qu'on travaille là-dessus et tout le monde n'a pas forcément suivi depuis le début. 3 petites idées de rappel sur ce que c'est qu'un PNR. Hein, aujourd'hui, il y a 49 parcs naturels régionaux en France. Si on avance bien, on peut peut-être être le 50e ou le 51e. Hein, il y a encore une vingtaine de projets qui s'étudient. Il n'y en aura pas... il y en aura une dizaine qui seront reconnus, et puis après, le ministère et la Fédération des parcs nous disent que eh ben, le réseau il sera complet. Alors, un parc naturel régional, les 3 idées à retenir, peut-être plus simplement, c'est d'abord la notion de projet collectif, ce que vous disiez Lionel Rocamp et Jean-Paul Hirsch aussi, c'est vraiment ça. C'est un projet collectif pour 12 ans qui rassemble toutes les échelles de collectivités, communes, communautés de communes, départements, régions. Et c'est une sorte de contrat collectif. Ensuite, ce contrat, il ne se réalise pas sans animation, et c'est vrai qu'un parc, c'est une équipe d'animation. Lionel parle souvent d'une agence de développement, en quelque sorte, hein, qui travaille sur le territoire aux côtés des socioprofessionnels, des communautés de communes, etc. Et cette équipe, elle est dirigée par des élus. Un parc naturel régional, il est dirigé par des élus des communes, des communautés de communes, moi et d'Alagie. Et enfin, la particularité des parcs aussi, c'est de prévoir dans leur vie que les socioprofessionnels, les partenaires socioprofessionnels soient impliqués dans la vie quotidienne du parc. J'y reviendrai, mais c'est très important. C'est une des qualités de ces projets-là, c'est de faire en sorte que les chambres d'agriculture, chambres de métiers, chambres de commerce et d'industrie, mais aussi le monde associatif, dans le domaine de la culture, de l'environnement, du développement, soient associés à la vie du parc. Autre précision aussi au début sur ce que ça n'est pas et une distinction très importante à faire. Depuis qu'on travaille là-dessus, on a vu souvent la confusion entre parc national et parc régional. Et c'est très important parce que c'est vrai que tous autant que nous sommes, vous n'êtes pas des spécialistes de tous ces outils-là. Donc cette petite diapo, elle est juste pour vous préciser qu'effectivement, c'est différent. Un PNR, c'est sur un territoire remarquable. Oui, on ne peut pas faire un parc naturel régional si on n'a pas un espace magnifique, remarquable et fragile, avec trois catégories de patrimoine, le paysage, très très important, la culture et l'environnement. Et dedans, on a des espaces protégés, bien sûr. Mais c'est un territoire vivant, habité. Alors qu'un parc national, c'est une réglementation, c'est un espace protégé, en principe pas habité, non habité. La seule exception dans tous les réseaux des parcs nationaux, c'est les Cévennes, les départements ici. Mais c'est la seule exception. Les autres parcs, le Mercantour, la Vanoise, les Écrins, etc., sont des parcs non habités. Et effectivement, c'est une administration d'État qui gère le parc. Alors que le PNR, ce n'est pas une administration d'État, ce sont des élus et une équipe d'animation qui fait du développement en se basant sur la très grande richesse des patrimoines. Donc, en conséquence, le parc naturel régional n'a pas de pouvoir réglementaire, lui. Il ne se substitue pas au pouvoir réglementaire de l'État ou des communes. Hein. Vous êtes un certain nombre de maires, vous savez que vous avez des pouvoirs de police, de réglementation. Ben, le parc ne va pas vous enlever ces pouvoirs-là. Il va vous aider à les exercer, oui. Il va essayer de vous aider à traduire les ambitions qu'on inscrit collectivement dans la charte, mais lui-même ne va pas réglementer. Alors, ces ambitions dont je parle, hein, c'est des... On va le voir dans le projet, hein, on se dit collectivement que par exemple, on ne va pas développer des grands parcs photovoltaïques au sol parce que ça consomme des terres et que s'il faut faire du photovoltaïque, il vaut mieux le faire en toiture. Ça, c'est notre engagement, notre contrat collectif commun. Voilà. Ou pas d'artificialisation des bonnes terres à lentilles dans la mesure où la lentille, c'est une de nos grandes richesses et il faut essayer de conserver ces terres à lentilles. Je précise par exemple, parce que souvent on a des questions que sur la pêche, sur la chasse, là encore, il n'y a pas de réglementation spécifique supplémentaire. Hein, c'est vraiment la réglementation de ce qu'on appelle le droit commun de la pêche et de la chasse qui s'applique avec les ACCA, les réserves qu'elles créent, les dates d'ouverture, etc. Même chose pour la pêche. Alors, notre territoire projet, Jean-Paul Archer vous le rappelait, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, hein, il a la particularité effectivement d'avoir une colonne vertébrale qui est la rivière Allier et la fameuse ligne des Cévennes hein, qui la longe et qui de Vieille-Brioude à la Bastide Puy-Laurent et puis l'Allier des sources au massif de Mercoeur, ceux qui connaissent, au Mour de la Gardouille, jusqu'à sa sortie du Haut-Allier à Vieille-Brioude. Mais ce n'est pas la seule vallée de l'Allier, parce que l'Allier serait rien sans les affluents et puis les plateaux hein, qui amènent ces affluents, donc deux grands plateaux. Le plateau volcanique à l'est, ici on est à la limite entre plateau volcanique et vallée de l'Allier, et puis à l'ouest, bien sûr, la Margeride, le nord du Gévaudan. Voilà. Et les instances nationales, quand il y a eu cette candidature, nous ont dit « votre territoire il est très cohérent ». Donc c'est bien de travailler sur cet espace-là de 88 communes. À une petite exception près, là, c'est quelques communes de l'Ardèche qui auraient vocation à rejoindre le Haut-Allier. Mais déjà à deux départements et deux régions, c'est compliqué. Donc pour quelques communes, on nous a dit, écoutez, commencez comme ça, et puis vous verrez bien plus tard si le parc se fait dans 12 ans, quand vous renouvellerez la charte. Alors je reviens très rapidement sur le calendrier de création du parc, parce que c'est important pour ceux qui n'ont pas tout suivi depuis le départ, de revenir bien, de faire un petit peu d'histoire. Ce parc, l'initiative, elle vient du territoire. C'est le SFAD du Haut-Allier, donc Billy Sack qui a initié tout ça avec les élus du SMAT, qui a déposé une candidature, effectivement, auprès de la région, et qui a été rejoint par deux communautés de communes de Lozère, donc celle de Langogne qui s'appelle le Houtanier, et Marjorie d'Est du côté de Grandlieu, parce que pour faire un parc naturel régional, ce n'est pas des limites administratives, c'est vraiment des limites de cohérence d'un même espace géographique. Donc voilà, ça c'est en 2010. Alors ça concernait deux régions, Auvergne principalement, mais aussi de manière importante Languedoc-Roussillon, puisqu'il y a 19 communes en Lozère et 69 communes en Poix. Donc les deux régions ont reconnu qu'elles étaient d'accord pour que s'étudie un projet de parc sur ce territoire et que s'il se passe, elles soient partantes dans la vie de ce projet. Ça c'était en 2010. En 2011, 2012, 2013 et jusqu'à 2014, on a tous travaillé ensemble, sans bureau d'études effectivement, on a pris une méthode originale hein, qui était de dire, ben, c'est pas un bureau d'études qui va être dans la charte, c'est nous tous, et l'association qui est là, c'est une petite structure qui va être chargée de recueillir la parole de tous les acteurs et d'essayer de la rassembler dans ce projet de charte qu'on écrit collectivement. Donc il y a eu d'abord un diagnostic de fait, qui a donné lieu à un forum, là c'est la photo du forum de Saint-Privat, pour ceux qui étaient, hein, où on a dégagé les grands éléments forts du diagnostic, et puis ensuite des travaux d'atelier d'écriture par thématique sur l'agriculture, sur la forêt, sur les services en milieu rural, etc. Asso, qu'on s'est retrouvé à 400 pendant deux jours hein, pour bien bâtir cette architecture de charte, donc ensuite on a continué à travailler tous ensemble de l'écriture, il y a un comité de rédaction qui suit ça. Régulièrement, on allait devant vous, ça fait peut-être la troisième ici à Saint-Aron, je ne sais plus, la deuxième. On allait dans les territoires pour rendre compte de où on en est. Et aujourd'hui, on revient parce qu'effectivement, fin 2014, l'objectif, c'est à la fin de l'année d'avoir peaufiné cette écriture pour qu'en 2015, les étapes de validation formelle se fassent. Et quand on dit les étapes de validation, c'est effectivement là, en 2015, vous aurez à décider si on crée ce fameux PNR, ou si on ne le crée pas, chaque commune, chaque communauté de communes devra délibérer, et on précise bien que ça exige une grande convergence, une convergence entre toutes ces communes, une solidarité, parce qu'il ne faut pas qu'on aboutisse à un gruyère, où vous auriez 60% des communes qui disent oui, 40% qui disent non, des trous partout, etc., parce qu'à ce moment-là, le parc ne peut pas se faire. Il faut que le résultat de ces délibérations, ça aboutisse à un territoire cohérent. Et je précise bien, hein, personne n'obligera les communes ou ne passera outre la décision des communes. Donc ça sera votre responsabilité de décider en toute liberté. Et après ça, bah, si c'est positif comme on l'espère, eh ben, le parc pourra être créé. Alors, je reviens sur ce qu'on a écrit, parce que ce qui est intéressant, c'est le fond, qu'est-ce qu'on s'est dit collectivement ensemble, quelle pouvait être la stratégie pour les 12 prochaines années. Sachant que le parc, il n'interviendra pas dans un désert, hein, il intervient avec des structures, des organisations qui sont déjà sur le territoire et qui agissent, et le but, c'est pas de prendre leur place, mais de s'aider collectivement. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de faire marcher cette affaire-là, ça ne marche jamais, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours critique. Donc, je vais vous présenter l'architecture de la charte. Elle est bâtie en quatre orientations stratégiques que vous avez à droite. Ce sont les 1, 2, 3, 4, c'est connaître et partager, résister, développer, inventer. On a, dans cette écriture collective, on n'a pas opposé environnement, développement et vie sociale. Dans notre territoire, les trois vont ensemble. Et c'est ce pari-là qui est le pari de la charte, c'est de bien montrer et d'aller dans le sens d'actions qui sont bonnes pour l'environnement, qui sont bonnes pour le développement économique et qui sont bonnes pour le bien-être social, pour notre vie dans des espaces ruraux peu denses comme les nôtres. Alors connaître et partager, à la base, c'est vraiment l'idée qu'on n'est pas assez fier de notre patrimoine, fier de notre identité. Ce territoire est peu connu. Nous-mêmes, quelquefois, on a trop tendance à considérer qu'il n'est pas formidable, que c'est peut-être un peu partout comme ça, etc. Et il y a tout un tas d'actions prévues qui vont dans le sens de collectivement, vraiment, être fiers de là où on est. C'est très important parce que c'est ça qui va créer notre identité du Haut-Allier. Alors ça passera par des rencontres avec les habitants énormément, je reviendrai, mais le parc qui doit être au contact, notamment des villages qui ont envie d'animer, de faire des projets, etc. Ça passera aussi par le programme pédagogique vis-à-vis des écoles, parce que les parcs ont cette mission-là, Et là, vis-à-vis des élus, ça vous parle aussi en ces temps de réorganisation du rythme scolaire, hein, et des fameux temps d'activité pédagogique. Le parc pourra aider les communes qui le souhaitent à proposer, avec le monde associatif, etc., des interventions spécifiques dans les communes. Résister, c'est un mot fort que vous avez choisi, et ça exprime l'idée que on a déjà la chance d'avoir un territoire partout habité. Mais quelquefois, dans des tout petits villages, dans des tout petits hameaux, c'est une chance et une fragilité, hein, il faut arriver à tenir. Et l'un des grands objectifs de ce parc, ce sera de réussir à tenir les activités dans l'espace et dans une gestion des ressources. Donc préservation des espaces agricoles, de tout le, je dirais, le socle de l'agriculture, avec l'autonomie fourragère, une question comme ça, etc. La viabilité économique des exploitations, qualité paysagère et du patrimoine, hein, qui est l'un de nos atouts, et puis forêt productrice de bois d'œuvre pour essayer de valoriser notre patrimoine forestier. Résister, c'est ça. Ensuite, ça ne suffit pas de résister, c'est l'idée de développer et de miser sur nos atouts, ceux que d'autres territoires n'ont pas, et qui vont faire qu'on sera compétitif, qu'on va pouvoir faire du développement. Alors c'est toujours nos fameux hauts lieux paysagers et nos villages remarquables. Hein. Le paysage, il a une valeur. Il peut être source de développement économique, notamment touristique, mais pas seulement, hein, les villages remarquables. La filière ovine, vous savez qu'on est dans un pays de tradition ovine, qui a subi des difficultés sur la filière ovine, hein, qui est fragile. Donc ça doit être, il y a une action particulière sur la filière ovine. Les activités de pleine nature, qui sont un de nos marqueurs et de qualité de vie aussi dans nos espaces, et de développement touristique. Le panier du parc, c'est les produits, tout ce qui concerne les produits du terroir, et puis bien sûr les lacs et rivières, qui sont un de nos éléments très très, très, très forts, nos lacs et rivières aux eaux pures. Et enfin, dernière orientation, la plus ambitieuse peut-être, donc vous voyez, il y a moins de thèmes, parce que ce sera peut-être plus difficile et plus ambitieux encore, c'est l'idée d'inventer. C'est pas parce qu'on est à l'écart et loin des agglomérations, des centres de développement, qu'on n'est pas capable de devenir pilote et référence à l'échelle des régions, voire du Massif central, sur un certain nombre de sujets. L'écotourisme, c'est-à-dire un tourisme qui n'est pas un tourisme de masse, qui va voir se concentrer dans quelques sites plein de monde, mais plutôt un tourisme diffus qui profite à tout le territoire et qui irrigue le territoire par la découverte des hommes qui y vivent, des productions qu'ils font, de l'environnement, des patrimoines. L'énergie, ça c'est aussi un grand sujet. Vous savez que tiens, il est d'actualité, puisque je ne sais plus si aujourd'hui ou demain, ce n'est pas la loi de transition énergétique qui se discute. L'énergie est un thème de compétitivité des territoires. On a des grands atouts en matière énergétique, on a aussi des faiblesses. On a l'atout des énergies renouvelables et on a la faiblesse de la... On n'est pas très bon en isolation des bâtiments et en ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et là, il y a la possibilité de se donner vraiment une dynamique collective là-dessus. Et enfin, le train, notre ligne des Cévennes aussi, là, c'est un élément que nous avons unique, hein, qui est à la fois un patrimoine majeur, avec la ligne et ses ouvrages d'art qui traversent toutes les gorges, et puis aussi un axe de vie qui nous raccroche à des grandes agglomérations, puisqu'on n'a pas l'autoroute comme ça tout de suite, là. Ça nous raccroche avec le bassin Limois au sud et puis le bassin Clermontois au nord, Cherbiamont. Alors là, je vais vous donner des exemples en essayant d'être un petit peu plus précis. Je ne vais pas passer en revue toute la charte parce que ce serait très long. Il y a 39 dispositions précises où à chaque fois on essaye de bien dire ce qu'il y a, quel est le projet, de qui fait quoi, de comment ça va se passer. Là, je vais simplement vous donner 10 grands résultats attendus dans 3 domaines. Dans le domaine économique, dans le domaine environnement et dans le domaine de la vie sociale, d'habiter au pays. Sachant que cette phrase, elle est très importante, hein. Il ne faut pas attendre du parc que du jour au lendemain. Quand vous êtes parc, vous ne devenez pas d'un paradis du jour au lendemain, hein. Ce serait trop beau. Voilà, le parc, il doit contribuer. Comme dit Guivissac, c'est un fortifiant. C'est quelque chose qui va impulser de la dynamique, hein, avec ses élus, ses équipes, et qui va permettre d'obtenir peut-être plus facilement un certain nombre de résultats. Alors, dans le domaine de l'emploi et des activités, de l'économie en général, on a plusieurs sujets. On a un grand enjeu qui est de donner envie à nos jeunes de rester au pays, d'y entreprendre, parce qu'ils ont trop souvent, je dirais, La tendance est évidemment de sortir du territoire, d'aller chercher de l'emploi ailleurs. C'est vrai que l'emploi il n'est pas facile ici, hein, mais il peut reposer sur des initiatives. Les idées d'action, ce sont des exemples, hein, c'est pas tout. J'essaie à chaque fois de vous mettre quelques petits exemples. Vous savez qu'on a beaucoup d'entreprises sur ce territoire, de petites entreprises, et qu'on a une grande difficulté pour la reprise d'entreprise. Bon, ben, le parc, il sera aux côtés des chambres dont c'est le métier, hein, aussi d'accompagner les cédants à la reprise, c'est elles qui nous ont demandé ça, hein, pour essayer de faire un certain nombre de sujets. Ça peut être aussi simple qu'une boulangerie, mais d'autres activités, d'essayer de profiter de l'image et du label du parc pour attirer, faire la promotion de certaines offres qui correspondent à l'image du parc vis-à-vis de l'extérieur, de ces fameux bassins où quelquefois des gens veulent revenir dans l'espace rural et le parc doit pouvoir aider ça. Il doit contribuer avec les régions dont c'est la responsabilité sur l'apprentissage à essayer de faire la promotion de l'apprentissage sur un certain nombre de filières d'avenir du territoire, comme par exemple les métiers du bois. Et puis, l'idée aussi qui a été émise, c'est de dire que le parc devait être très accompagnant de projets que les acteurs classiques ont un peu du mal à accompagner parce qu'ils sont atypiques. Là, on a par exemple l'exemple d'un projet d'installation en culture médicinale. Bon, ben, les chambres, elles ne sont peut-être pas toujours facilement... au courant de qu'est-ce qu'on peut faire en plan médicinal, etc. Donc le parc, il n'est pas là pour faire de l'accompagnement classique, pas des acteurs de fond, mais sur des petites choses un peu particulières, il doit être là pour aider, parce qu'on sait bien qu'on n'aura pas des arrivées de grandes entreprises qui arriveront avec 100 employés. Il faut faire de la dentelle, hein, je prends une image antinigérienne, il faut faire de la dentelle et être accueillant pour différents types de projets. Alors ça fait la transition avec une autre cible très importante évidemment dans ce territoire, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, bien sûr. Donc l'enjeu, l'objectif du parc, c'est bien de consolider l'agriculture, hein, de faire que si on a ces six beaux paysages, si on a cet espace vivant, c'est d'abord parce qu'on a ce socle agricole de la vie rurale qui est là, et bien là. Alors, les idées qui sont remontées de notre travail d'écriture collective, c'est, alors sur la filière, on revient un peu sur la filière ovine, hein, lieu de formation et d'échange pour les éleveurs ovins, parce qu'ils sont particulièrement en difficulté peut-être par rapport à d'autres éleveurs, il n'y a pas que les éleveurs ovins, hein, mais ceux-là sont particulièrement en difficulté, on a plus de 50% des éleveurs qui vont partir en retraite dans les 10 années à venir, on a des exploitations qui se sont arrêtées beaucoup dans les dernières années, alors qu'on est dans le berceau de 4 races rustiques ovines du Massif Central, hein, dans le berceau des 4 grandes races rustiques, qu'on a des atouts comme Fédatest à Mazères-d'Allier, qu'on a le 4e marché national ovin encore à Saulnes, qu'on a une culture ovine qui est là. L'idée, c'est d'essayer de la relancer, de la redynamiser. En lien avec ça, vous voyez, c'est un lien avec ce deuxième exemple, hein, nos fameux espaces anciennement pastoraux qui ont tendance à s'embroussailler, à s'enfricher. Donc le travail, ça va être d'aider les initiatives, de les accompagner, de les aider à trouver des financements pour la reconquête du foncier pastoral, quand vous savez, dans une logique d'exploitation qui économiquement sont viables, hein, parce que ça ne se fait pas comme ça, il faut pas non plus imaginer qu'avec que des broussailles, on arrive à gérer une exploitation, donc c'est assez compliqué, mais ça, avec les chambres, on a vu que c'était un gros objectif aussi. Sur les produits du territoire, parce qu'on a bien sûr la lentille qui est une production emblématique, mais on a aussi des tas de produits fermiers, des produits transformés. Et ça, l'idée, c'est de consolider les filières, notamment en se mobilisant pour que dans la restauration collective de nos écoles, mais aussi de nos maisons de retraite, de nos centres d'accueil, on ait plus de produits du territoire qui soient consommés. C'est bon pour nous, parce qu'on mange de bons produits, et puis c'est bon pour les filières. Ça doit multiplier la valorisation de la matière première agricole. Donc ça, il y a des initiatives, et l'idée, c'est que le parc soit là pour accompagner, pour faire un effet d'ensemble là-dessus. Enfin, dernier exemple, vous savez qu'on va être dans les 10, 15, 20 ans à venir, dans des démarches aussi de changement climatique. Hein, les dernières années, même si en ce moment on a beaucoup d'eau, on a eu beaucoup de sécheresse dans les 10 dernières années, on sait que ça va changer, que c'est, et l'idée c'est que le parc aide à anticiper et d'avoir un certain nombre d'exploitations avec lesquelles travailler sur des nouvelles méthodes ou l'adaptation, ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, ou mieux d'autonomie, la gestion de l'eau, tous ces sujets-là, d'avoir un réseau de fermes avec lesquels change l'agriculture et parc travail pour que ça devienne des lieux un peu d'expérimentation et puis d'échange avec les agriculteurs du secteur pour se dire, tiens, si on fait des cultures en mélange, quel type de culture, comment est-ce qu'on peut mieux stocker l'eau, etc. Voilà. Je continue, on a en matière économique, on a vu l'agriculture. C'est peut-être plus surprenant pour vous, cette cible sur le bâtiment, l'idée d'avoir vraiment une valeur ajoutée vis-à-vis des entreprises du bâtiment. Ça, c'est par l'enjeu énergétique. On a un enjeu énergétique majeur d'isolation de nos bâtiments, de techniques d'éco-construction. On a des entreprises qui cherchent à innover dans ces domaines-là et qui manquent de chantiers, elles nous l'ont dit, en particulier des chantiers publics, des chantiers démonstratifs. Donc là, l'idée, c'est d'en susciter, de susciter des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments publics. L'objectif, c'est qu'au terme des 12 ans, 50% des bâtiments publics aient engagé des travaux d'économie d'énergie. Donc, il va y avoir des nouveaux outils financiers qui vont être créés. Il faut que nous en profitions. Et le parc aura une grande mission d'animation là-dessus. Et au-delà des économies d'énergie, s'engager dans ce qu'on appelle l'éco-construction avec des nouveaux matériaux, comme le chanvre, comme y compris la laine, pourquoi pas valoriser aussi la laine, hein, puisqu'il y a des initiatives dans ce domaine. Voilà. Donc les entreprises du bâtiment, elles sont, elles sont dans les objectifs du parc. Alors bien sûr, la filière bois, le risque de notre filière bois qui est là, hein, on a des scieries, on a des entreprises de deuxième transformation, des menuiseries, la charpente, etc. On a du beau bois d'œuvre, vous en avez là. Mais le risque, c'est qu'on voit de plus en plus dans les agglomérations au sud, notamment, des projets de ce qu'on appelle la cogénération, c'est-à-dire la production de chaleur et d'électricité pour les agglos, et là, à partir de bois déchiqueté, hein, de déchets bois, mais on prend de moins en moins de déchets et on va de plus en plus avoir tendance à solliciter des billes de bois qui, normalement, devraient plutôt aller dans le bois d'œuvre. Alors la conséquence, c'est pas bon parce que c'est du bois qui est acheté peu cher, qui est plus valorisé sur le territoire et qui part à l'extérieur. Donc l'idée, ce qui est mis en avant dans la charte du parc, c'est le besoin de vraiment consolider une filière bois local, une filière de valorisation du bois local, toujours pareil, pour donner de la valeur ajoutée à nos bois. Alors pardon aux amoureux du Douglas et du sapin et du hêtre, parce qu'on a mis un peu l'accent sur le pin sylvestre. Bon, là, on en parle aussi des autres essences dans la charte, mais c'est l'idée qu'on a une essence qui est le pin sylvestre, qui est très adaptée à notre territoire et qui est sous-valorisée actuellement, alors qu'on peut produire du très beau pin sylvestre et en faire du bois de menuiserie, du bois de fenêtre, du bois, etc. Mais bon, c'est tout un travail de filière, là, depuis la culture du bois par les propriétaires et les exploitants. Hein, on a 20 000 propriétaires forestiers sur ce territoire, jusqu'à la transformation par les menuisiers et la vente au public. Et en lançant la promotion, il faut aussi que les communes, que les particuliers soient incités à utiliser du bois local plutôt que du mélèze de Sibérie, par exemple, quand on refait ses fenêtres. Donc voilà, donc là, il y a une cible sur la filière bois. Encore un autre domaine sur l'activité économique, hein, on a vu l'agriculture, le bâtiment, la transmission d'entreprise, la filière bois. Bien sûr, quand on pense PNR, on pense plus facilement tourisme, parce que le label parc, c'est un label qui est connu dans le monde touristique. L'idée, c'est vraiment de développer notre attractivité touristique. Alors, je ne le dis pas avec un tourisme de masse qui va un peu saccager nos sites et notre art de vivre, mais plutôt avec un tourisme diffus. Alors, les exemples d'actions qui sont prévues dans la charte du parc, c'est la gestion et le développement du train touristique qui a été initié par le SMAT. Hein, vous savez que dans cette ligne des Cévennes, il y a une particularité de ce train touristique qui fait une trentaine de circulations par an. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin et de multiplier par deux, par trois, ce produit train touristique. Et à la fois comme un train qu'on prend pour visiter les gorges, mais aussi peut-être demain un train qu'on prend pour s'arrêter à Pont-d'Aléras, à Monistrol, à Langogne, pour prendre un vélo et faire un tour, et revenir, pour prendre une navette qui va vous conduire dans un gîte sur les plateaux, etc., qui soit vraiment un moyen de parcourir le territoire. Donc ça existe ailleurs, hein, c'est pas quelque chose de loufoque, mais ça nécessite toute une stratégie avec la SNCF et puis avec peut-être des opérateurs. Les professionnels de tourisme, ce sont eux les acteurs du développement, hein, et ils nous ont dit, nous, ça nous intéresserait d'avoir des produits labellisés PNR, effectivement, qui reconnaissent par là tout le travail de qualité qu'on fait, et que le PNR en fasse la promotion à l'extérieur du territoire pour qu'on puisse, nous, développer nos activités. Alors, ces activités-là, ça suppose aussi que le PNR joue un rôle de médiateur pour que le développement de ces activités il se fasse de manière harmonieuse dans le paysage et dans les sites. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des conflits d'usage entre les touristes d'un côté, les habitants qui utilisent des chemins, qui utilisent ces espaces-là, et qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Donc le parc, il a prévu toute une stratégie là-dessus. Et il doit être aux côtés des maires, notamment pour gérer ces conflits, parce que quelquefois, localement, on a des conflits d'usage, c'est... Voilà, donc j'en ai sur les cibles purement économiques. Sur le cadre de vie et l'environnement, donc là vous reconnaissez tous bien sûr la plage de Prades, mais on aurait pu en prendre d'autres. On a le lac du Boucher dans notre secteur, on a plein de sites magnifiques. Hein. Ça c'est pour illustrer l'idée de dans l'environnement, notre patrimoine, c'est les lacs et les rivières. Alors on a connu des grandes heures sur les lacs et les rivières, et notamment avec le tourisme pêche. Vous savez qu'on l'a perdu. On l'a perdu sur le saumon depuis longtemps. Il y a tout un travail pour essayer de le retrouver, mais ça, c'est du très long terme. On l'a perdu sur l'ombre, sur la truite, qui sont des espèces qui attiraient beaucoup de pêcheurs et qui le font un peu moins maintenant. Donc, il y a l'idée de redynamiser ça en travaillant avec les fédérations de pêche et les APPMA sur la qualité de la rivière, parce que pour avoir du poisson, il faut avoir des rivières de qualité. Et puis derrière, après, effectivement, on peut en profiter, nous, quand on pêche sur notre territoire, et en faire profiter à d'autres dans des produits de pêche à certaines périodes ou sur certaines espèces. Il y a bien sûr la gestion des sites de baignade, qui est pour les communes quelquefois un peu lourde et difficile. Il y avait l'idée que le parc puisse mutualiser les communes, l'action des communes sur la gestion des sites de baignade. Et puis sur l'eau, toujours, l'idée de mettre en avant un lieu de sensibilisation et de découverte sur les enjeux, sur le patrimoine eau et sur les enjeux de l'eau, parce que on entend dire beaucoup de choses sur la qualité de l'eau, sur les poissons, etc. Et c'est bien aussi de dépassionner les débats et de sensibiliser tout un chacun à ce que c'est, ce que ça veut dire, comment vit une rivière, comment est-ce que ça se passe, la gestion des rivières et de l'eau. Donc là, c'est bien sur les lacs et les rivières. Donc là, vous avez tous reconnu, hein, je ne vous dis pas où c'est bon. Donc, c'est la grande originalité de nos paysages. Nos paysages sont évidemment un de nos points très très forts. Je suis sûr que vous avez tous l'expérience, soit de personnes de votre famille qui reviennent sur le territoire, soit de touristes ou de visiteurs qui vous disent « mais vous avez des paysages absolument exceptionnels ». On ne les voit plus parce qu'on y est tous les jours, peut-être. Et c'est réellement de niveau national, voire international, avec cette vallée de l'Allier, mais pas seulement la vallée de l'Allier, hein, il y a d'autres vallées, dans la Dège, etc. Voilà, avec cette ligne qui la parcourt. Donc l'idée, c'est vraiment de miser à fond là-dessus, de valoriser nos villages remarquables. On en a identifié 29 qui sont particulièrement remarquables, à travailler leur signalétique, l'accueil des visiteurs. La préservation, la valorisation des espaces publics, etc. Mais au-delà des villages remarquables, il y a tout un tas de villages, et puis il y a nos paysages du quotidien, entre les paysages du plateau volcanique, les paysages de la Margeride, les paysages du Val d'Allier ou du massif de Mercoeur, c'est pas les mêmes. Et l'objectif, c'est pas qu'on les fiche complètement, puis qu'on arrête de couper une haie ou chose comme ça, mais c'est de faire en sorte que on prenne conscience de cette qualité-là et que l'évolution des paysages, parce que les paysages évoluent toujours, elle se fasse en évitant ce qu'on appelle la banalisation, que ce soit un peu partout comme ailleurs, et qu'on travaille cette qualité, cette signature qui nous est propre. Et puis, sur le patrimoine, on a le label Pays d'art et d'histoire, qui a été initié par le SMAT sur la partie Haute-Loire et qui serait étendu à la partie... à la partie lozérienne, avec des animations spécifiques, la découverte des monuments, les interventions en milieu scolaire. Si vous connaissez un peu le pays d'Arrest Histoire, vous avez déjà pu bénéficier de ces interventions. Donc ça serait poursuivi dans le cadre du parc. Donc on a parlé des rivières, on a parlé des paysages, et dans l'environnement, ben là c'est des narcisses, hein, bien sûr. Alors pourquoi les narcisses? Parce que c'est une espèce qui est typique des prairies d'altitude. On en avait beaucoup, on en a encore, hein, des narcisses. Et vous savez que cette espèce, elle est à la fois très locale, et puis elle sert à la fabrication d'un produit de luxe, puisque vous savez que Chanel l'utilise encore dans ses parfums. Donc c'est assez remarquable de voir comment une petite plante locale comme ça se retrouve dans les plus grands parfums français. C'est pour illustrer l'idée que le rôle du parc sera de travailler avec les agriculteurs et les forestiers pour intégrer cette biodiversité sur les sites où elle est riche, dans leurs pratiques de gestion. C'est ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales, sylvo-environnementales pour ceux qui connaissent, les contrats Natura 2000 quand c'est un site Natura 2000. Donc là encore, ce n'est pas dans une logique d'imposer, hein, ce n'est pas une contrainte qui va arriver, c'est des propositions qui vont être faites et qui seront travaillées avec les agriculteurs et qui donneront lieu, s'ils sont d'accord, à des contractualisations avec une reconnaissance, compris financière, des bonnes pratiques. Il y a aussi l'idée d'impliquer les habitants dans la reconnaissance des espèces emblématiques du territoire. On pense au saumon, mais il y en a d'autres. Vous savez que là, il y avait un rapport, aujourd'hui, il y avait la publication d'un rapport qui indique que 40% des espèces sauvages, non, 50%, dans les 40 dernières années, la population des espèces sauvages a diminué quasiment de moitié sur la Terre. Alors nous, on a toute notre richesse, donc on n'a pas cette impression-là. Et c'est vrai que ça va plutôt bien dans notre territoire. Mais du coup, on a une certaine responsabilité, hein, sur toutes ces espèces sauvages qu'on a, de les connaître et d'être attentif à leur gestion. Certaines posant des problèmes, on y reviendra. Donc, j'ai passé les enjeux environnementaux. Là, je suis sur les enjeux de vie sociale, qui sont inscrits dans la charte aussi. Cette attention qu'on doit avoir aux secteurs isolés, parce qu'on a quelques gros bourgs, on a des endroits qui vont bien, où il y a des habitants en plus, etc. Puis on a surtout des tas d'espaces un peu isolés qui souffrent et qui se disent « Mais comment demain je vais pouvoir, moi, rester un territoire vivant et attractif ?» Bon, donc là, c'est quelques exemples d'actions. On a, j'en reviens pas sur le maintien des services, etc., qui sont dans la charte où il y a des enjeux de veille et d'accompagnement du parc. Là, c'est quelques idées un peu innovantes qu'on a mises. Vous savez qu'on a ce haut débit, cette technologie numérique qui va profondément changer les habitudes de vie. On n'en a peut-être pas l'impression, mais c'est déjà le cas. Et qui va rendre potentiellement nos territoires attractifs si on sait gérer cela. C'est-à-dire si on utilise le haut débit pour attirer. Puisque maintenant, vous avez des tas de sociétés ou d'entrepreneurs qui peuvent se permettre de ne pas forcément avoir leurs salariés toujours au siège de l'entreprise dans une agglomération, mais avec le travail à distance, de pouvoir s'installer dans des lieux un petit peu à l'écart, ou pas en tout cas au siège, et revenir une fois, deux fois par semaine dans les agglomérations. Et ça existe déjà, hein. Et si on joue bien là-dessus, si on mise là-dessus, ça peut nous permettre d'attirer dans certains secteurs des gens qui vont être attirés par notre cadre de vie, la qualité de l'environnement, du savoir-vivre dans nos espaces de montagne, et puis qui feront des voyages par le train ou par la route pour revenir deux fois par semaine, une fois par semaine, sur les plus gros bouts. Donc c'est ce qui est noté ici. Et puis nos villages, du coup, il faut les faire vivre. Il y a tout un tas d'associations qui sont là, qui essayent de dynamiser, de faire des petites manifestations, de faire des rencontres, des thèmes, des expositions. Le parc qui peut être là, donc c'est l'idée des couviges. Là encore, c'est une image de dentelle, hein, pour créer des lieux de dialogue et faire remonter les idées des habitants et faire des manifestations, des choses qui font qu'on ait un territoire vivant. Pourquoi pas en utilisant aussi les marchés, qui sont quelque chose de très important dans notre vie locale, et d'animer ça. Voilà. Toujours dans la vie sociale, et c'est lié, hein, ne pas perdre cette ligne des Cévennes qui nous raccroche. Vous voyez, on est à 2 heures, on est à 2 heures et demie, 2h30, 3h quand on est vraiment plus profond du parc, d'une agglomération de 460 000 habitants d'un côté, puis d'une agglomération de 250 000 habitants de l'autre. 2-3 heures, ça peut paraître loin, mais si on y réfléchit, c'est pas forcément si loin non plus. C'est effectivement impossible pour des allers-retours quotidiens, mais pour ce que je vous disais tout à l'heure, ça nous rend quand même accessible. Donc l'utilisation du train, vous savez qu'il y a une association qui milite pour le maintien de la ligne des Cévennes, etc. Le parc ne va pas prendre sa place, mais peut-être que, bien sûr, il faut se battre pour que la ligne soit maintenue, mais il faut aussi se mobiliser pour qu'on essaye de mieux utiliser dans notre territoire, de mieux utiliser le train. Alors c'est le fret, parce qu'il y a du fret qui part, hein, notamment du bois, qui part vers le sud et qui pourrait être plus développé. C'est un petit peu les voyageurs, pas en rythme journalier, mais plutôt en rythme hebdomadaire, hein, pour les week-ends, le retour, etc. Et puis, c'est le développement touristique de la ligne. J'y revenais tout à l'heure. Si on arrive à faire une grande saison avec beaucoup de gens qui fréquentent le train, eh bien, ça sera un facteur pour maintenir la ligne. Voilà. Et puis là, on a l'idée d'utiliser les locaux vacants proches des gares aussi pour faire des lieux de travail partagés que les entrepreneurs puissent utiliser. Alors, j'en ai fini des grands résultats attendus, hein, donc sur l'économie, sur l'environnement et sur la vie sociale. Alors, c'est un balayage assez rapide, donc vous trouverez dans la charte des données un peu plus précises. Là, je reviens maintenant, j'ai encore une ou deux diapos, juste sur le financement et la gouvernance du parc, parce que ce sont des sujets très importants aussi. Un parc, ça a un coût, ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts. Vous avez... dans un parc, j'en parlais tout à l'heure, une équipe permanente d'une quinzaine d'agents avec des frais de structure. Tout le monde n'est pas forcément au même endroit. Il peut y avoir plusieurs, un siège et des antennes, etc. Hein, mais c'est pas de rassembler tout le monde. Et puis, ça a un coût, effectivement, qui est en cours de définition précise. Là, c'est des ordres de grandeur. Hein, un coût de l'ordre de 700 000 euros par an, parce que c'est une équipe d'une quinzaine d'agents avec des frais de structure et d'intervention. Donc c'est vrai que c'est une agence de développement qui elle-même a son coût. Et ça, il faut l'avoir en tête, hein, parce que c'est un coût qui doit être supporté par les fondateurs du parc. Et puis, ça, c'est pas le budget total du parc, parce que s'y ajoutent des dotations et subventions. C'est-à-dire qu'au-delà de l'équipe permanente, elle va travailler et elle va aider les acteurs à faire émerger des projets. Le parc en réalisera lui-même un certain nombre. Et au fur et à mesure de leur réalisation, et eh bien le parc ira chercher des subventions et des dotations supplémentaires qui là viendront aider, soit de l'investissement, soit des contrats, hein, quand je parlais des mesures agri-environnementales, des contrats territoriaux de l'eau, des choses comme ça, ben ça c'est de l'argent qui viendra en plus au fur et à mesure qu'on aura réussi à conduire les actions qui sont dans la charte. Et ces subventions, elles viendront peut-être certaines pour le parc, pour les missions qu'il fera lui, mais aussi pour les communautés de communes, qui réaliseront leurs projets, pour les socioprofessionnels quand ils feront leur projet aussi, c'est pas que de l'argent qui va pour le parc, c'est de l'argent qui va pour le territoire. Voilà. Donc sur les cotisations, ce dont on est sûr, c'est les cotisations, effectivement, le minimum, c'est cette affaire d'équipe du parc et de mission fondamentale. Donc là, vous avez le camembert de gauche, c'est sur les cotisations. La répartition des cotisations entre les membres fondateurs du parc, vous voyez que les régions prendraient 65%, les départements 20%, et resteraient au niveau des communes EPCI 15%. Donc ça fait pour l'échelle locale 15% du financement annuel, c'est-à-dire une cotisation à hauteur de 3,50€ par habitant. Voilà. Mais un parc, c'est aussi, je disais, il y a une équipe, il y a des missions, mais ce sont les élus qui décident. Alors comment est-ce que les élus s'organisent pour décider? Puisqu'on a vu que dans le parc, il y aurait, je dirais, à la fois les régions, les départements et les collectivités. Donc voilà la répartition, là c'est en voie, en pouvoir de décision, qui est donnée par le travail sur les statuts du parc qu'on fait actuellement hein, dans la charte. Donc en voie et en capacité de en poids sur la décision, vous voyez que les régions qui donnent 65% du financement auraient 50% des voix, les départements 20% des financements, 20% des voix, et les échelles locales 15% du financement, 30% des voix. Donc les régions ont accepté de baisser un peu leur nombre de voies pour des papiers sur leur investissement financier pour valoriser la part de la représentation locale, parce que c'est très important que vous soyez, en tant qu'élus communaux et communautaires, dans la vie quotidienne du parc. Hein, c'est pas le parc, il n'est pas géré par les régions et les départements. D'ailleurs, les règles de vote sur toutes les décisions importantes sont aux deux tiers. C'est-à-dire, pour prendre une décision importante sur le budget, sur la réforme des statuts, le programme d'action, etc., il faut obtenir les deux tiers des voix. Donc ça veut dire que les régions seules, les départements seuls et les locaux, les communes et les EPCI seuls, à eux seuls, ne peuvent pas emporter la décision pour l'ensemble. Donc c'est une règle un peu de consensus ou de majorité qualifiée. Voilà, sur la conclusion, si on doit très rapidement conclure sur toute cette stratégie avec des ambitions et puis un organe d'animation qui sera le syndicat mixte du parc, c'est vraiment de créer une dynamique pour un territoire qui est à l'écart des agglomérations, qui s'interroge quand même un peu sur son avenir, parce que je ne vous ai pas refait le diagnostic, mais vous connaissez aussi bien que moi. Hein. On est quand même un peu interrogatif sur qu'est-ce que ça sera la vie dans 20 ans dans ce territoire-là, et notamment dans les secteurs un peu difficiles. Donc le parc, il a une ambition, il l'affiche. Il y a un outil qui se monte pour animer tout ça. Il y a une solidarité avec les grandes collectivités, régions et départements, qui acceptent finalement d'investir aussi dans ce territoire et dans son animation. C'est pas gagné, mais c'est en donnant cette chance-là qu'on peut peut-être se donner plus de chances de réussir. Et le parc, il doit être tout à fait très à l'écoute des acteurs du territoire, parce que vous avez vu, c'est pas quelque chose qui se décrète de haut, ce qu'on fait. Ça doit toujours remonter de la base, de vos idées. Mais le parc, il doit aussi essayer d'apporter de nouvelles idées, et notamment en regardant ce qui se fait ailleurs, parce que c'est toujours intéressant, et dans le réseau des 49 parcs existants, il y a des tas d'expérimentations sur la vie dans les espaces ruraux peu denses qui se fait. Bien sûr, de mettre en œuvre concrètement les actions qu'on a écrites dans la charte, parce que c'est pas la peine de s'être embêté pendant 3 ans à écrire ensemble, et de pas essayer derrière de réaliser, donc c'est l'objectif fondamental aussi. Très important pour faire ça, le parc qui va fédérer les acteurs et essayer de trouver des financements, de répondre à des appels à projets, d'aller chercher les fonds européens, qu'ils soient leaders, qu'ils soient les fonds massifs, les fonds du plan Loire, les contrats régionaux, les appels à projets nationaux, dont certains sont spécifiques au PNR. Donc là, le parc, ça va être un puissant dynamiseur pour trouver des financements. Et puis, de promouvoir, bien sûr, ce territoire à l'extérieur, parce qu'on n'est pas connu, on est peu connu, et le parc doit avoir une mission de promotion, et de se faire connaître, reconnaître, et d'être le plus attractif pour le tourisme, mais pas seulement, aussi pour des nouveaux entrepreneurs. Voilà. Et ça, le parc ne travaille pas seul, je le redis en conclusion, parce que c'est très important, c'est avec des partenaires qui nous ont aidés à écrire la charte et qui sont prêts à s'impliquer dans les actions du parc. Voilà, j'en ai terminé. Là, c'est l'image de notre site internet, parce que si vous voulez en savoir plus, vous faites PNR Hôtalier sur internet, et puis vous arrivez sur ce site-là, et vous voyez en bas à droite, il y a à consulter, vous pouvez lire l'intégralité de ça, hein, il n'y a rien qui n'est caché, c'est un peu long, n'essayez pas de tout lire en un soir, hein, sinon vous allez un peu fatigué. Donc, mais voilà, vous pouvez aller voir les sujets qui vous intéressent, et vous pouvez même voir le plan de parc qui est la grande cartographie du territoire qui va avec ce document. Voilà, j'en ai terminé de mon côté dans ma présentation. Merci à tous.
Bien, merci pour cette présentation. Maintenant, c'est le moment des questions. Donc, Léonard, de ce que vous avez senti, ben voilà, d'habitude c'est difficile de commencer, je pense que... Et après, je vais même vous passer le micro. Si vous... Il y en a un deuxième, c'est le plus clair, peut-être Non C'est pas l'air d'avoir Oui, il faut que vous voulez vous l'amener. Vous êtes gentil de vous présenter, et puis de... Voilà, alors.
Voilà, Cœur Péguel, je suis Saint-Aho, et j'ai appris dans ma tour. Voilà, il y a 4-5 ans, je crois que ce projet a été commencé. Oui, 4-5 ans, on peut dire. je me rappelle un sport. Sur le journal Réveil dans l'emploi, il y avait une page qui était consacrée justement à ce projet. Et qui faisait beaucoup d'éloges sur ce projet. Seulement en dernière ligne, il y avait que ce projet allait amener quand même certaines écoles. C'est terminé. Je voudrais savoir quels sont ces écoles.
Vous voulez commencer à répondre? On va essayer de répondre.
Alors, je vais peut-être répondre un peu techniquement, et puis après, peut-être les élus pourront dire. Effectivement. Oui.
Excusez-moi. Vous pouvez allumer la lumière, peut-être.
D'abord.
Oui, on se voit partout. Voilà. Donc, c'est pas mieux. Voilà, là, c'est mieux.
Alors, sur les inconvénients. Les inconvénients qu'il y a quand on crée un parc, c'est de respecter les règles qu'on a écrites ensemble dans le parc et l'ambition qu'on porte. Alors, c'est à la fois des inconvénients et un avantage. C'est-à-dire que vous ne faites pas un projet de territoire sans avoir une stratégie. Quand je vous disais pas de parc photovoltaïque au sol, ben, peut-être qu'il y a ici des gens qui avaient un projet de mettre du photovoltaïque au sol, et pour eux, cette règle-là, c'est un inconvénient. Pour des agriculteurs, ce sera un avantage, parce qu'ils sont là à dire qu'il faut préserver les terres agricoles. Ça dépend aussi de quel côté on se place. Mais c'est vrai qu'il faut lire la charte, il faut regarder l'ambition, d'un côté ou de l'autre. Vous êtes ni de l'un ni de l'autre. Voilà. Donc ça peut être voilà les règles. Quand on dit il faut avoir une gestion économe de l'espace bâti, c'est-à-dire pas artificialiser trop les terres, pas sur tous les secteurs, pas dans ces villages comme ici, mais on sait par exemple que sur l'Angogne, sur le bassin de l'Angeac, on a eu pendant des années tendance à s'étaler, à faire des grands lotissements pour consommer de l'espace, etc. La charte du parc, elle dit ça, il faut arrêter ça, il faut se calmer. Il faut ce qu'on appelle redensifier, c'est-à-dire essayer de reconquérir les centres-bourgs qui se sont vidés, hein, parce qu'en parallèle, pendant qu'on s'est allé, le centre-bourg il avait tendance un petit peu à se vider. On a le droit de construire des nouvelles maisons, et c'est pas le parc qui va les interdire, mais il faut les concevoir de manière à ce que, vraiment, on préserve nos terres agricoles, nos terres de valeur, les espaces forestiers, qu'on consomme moins d'espace. Voilà. Ça peut être vécu comme un inconvénient. Hein, voilà. Sur la qualité de l'eau aussi, on se dit, il faut travailler notre qualité d'eau. On a des rivières, on a une bonne qualité d'eau, mais on a encore des secteurs où ça ne va pas très bien. Ça, il faut le travailler. On a comme ambition d'avoir une très bonne qualité d'eau. On a des atouts pour ça. On est responsable parce que l'eau qu'on a chez nous, c'est personne qui nous l'altère. Hein. C'est que nous qui l'avons, elle tombe du ciel. Et si on veut une très bonne qualité d'eau, c'est à nous de gérer ça. Donc voilà, ça, si effectivement on s'en fiche de la qualité d'eau, on peut se dire, ah oui, mais ça veut dire qu'il faudra faire des assainissements de qualité, etc. Ben oui, c'est ça collectivement. Alors si on ne le fait pas, ça, parce qu'on peut dire aussi, mais alors on va nous obliger à faire ça. La charte, elle n'oblige pas, c'est-à-dire, soit on réussira, soit on réussira pas. Il y a des domaines où on va réussir. Et puis il y a des domaines où on se dira, je pense sur l'énergie, si on se dit qu'il faut que les bâtiments publics soient mieux économes en énergie, ça veut dire que les communes s'engagent à essayer de le faire. Est-ce qu'on va réussir sur la moitié de nos bâtiments comme c'est marqué dans la charte? On verra au bout de 12 ans. Si on n'a pas envie de se lancer sur ces sujets-là, effectivement, à ce moment-là, le parc sera vu comme un inconvénient. Parce que il y aura l'équipe du parc qui va interpeller les communes, qui va essayer d'amener... Qui veut essayer de faire un dossier groupé, des diagnostics de bâtiments, des diagnostics énergétiques de bâtiments communaux, etc., etc. Personne ne sera forcé, obligé à le faire. Mais simplement, c'est vrai que si on signe la charte du parc, si on est honnête, ça veut dire qu'on se dit « je vais essayer d'aller dans cette voie ». Après, si on se plante sur tous les sujets, dans 12 ans, on se dira « on avait des tas d'ambitions et finalement on n'en a réussi aucune bon, ». Ça m'étonnerait quand même. Mais si on n'en a réussi aucune, et puis on arrêtera de faire parc naturel régional, parce que finalement, les idées qu'on avait là, elles sont apparues comme inutiles et inintéressantes. Nous, on pense que comme c'est venu du territoire, ces idées-là, elles ne sont pas farfelues et elles ne sont pas inintéressantes. Hein ? Et on a aussi, à l'échelle un peu plus large, là, sur les 49 PNR existants, on a un bon indicateur que c'est intéressant un parc et que c'est beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. C'est que tous les 12 ans, chaque parc, il se repose la question, est-ce que je continue d'exister ? Puisque ce qu'on écrit là, c'est valable 12 ans, on essaye de jouer ce jeu-là pendant 12 ans, puis après on arrête tout et on se dit, est-ce qu'on continue l'aventure PNR ? Sur tous les parcs. Hein. Et bien sur les 49 parcs, tous, absolument tous, ont continué l'aventure, régulièrement, tous les 12 ans, en se disant, ben oui, et les communes concernées, elles ont dû redélibérer, et elles ont bien dû trouver quand même que c'était intéressant, puisqu'elles ont recommencé. Alors quelquefois en perdant quelques-unes au passage, mais aussi beaucoup en rajoutant d'autres, par exemple le PNR Millevaches, là, qui renouvelle sa charte, il a 30 communes autour de lui qui veulent rejoindre Millevaches. Bon. Alors il ne va pas toutes les accepter, parce qu'il y en a qui ne sont pas tellement du plateau de Millevaches quand même, donc il faut bien mettre des limites à un moment. Voilà, il y a d'autres parcs au Livradois-Forez, ils ont perdu quelques communes, ils en ont rajouté dans un autre côté, côté Rhône-Alpes, mais il y en a certaines qui ont dit, bon ben moi le parc c'est un très grand parc, il fait 180 communes, bon, vous voyez, c'est pas nos 88 communes, et puis il y en a qui ont dit, ouais mais moi je ne voyais jamais le parc, donc je n'y vois pas trop d'avantage à continuer. Voilà, donc ça c'est, il y a des petites subtilités comme ça, mais il y a 49 PNR, depuis la création dans les années 70, et bien toujours ils ont renouvelé.
Oui, excusez-moi, mais tout à l'heure, votre question me décontenançait un peu. Je ne voyais pas comment y répondre parce que. Oui, mais je comprends, mais voilà, et c'est vrai qu'on a toujours parlé, avantages, inconvénients, etc. Mais depuis. Voilà, oui, mais bien sûr. Depuis 4 ans, enfin, je pense que Luc a répondu en grande partie avec votre question. Mais voilà, en tous les cas, aujourd'hui, ce que vous nous avez proposé d'écrire. Moi, je ne vois pas comme rentrer ou pas rentrer dans un PNR, d'ailleurs, on l'a dit à Langeac, mais comme adhérer à un projet. Voilà. Et donc, on est au moment où il faut signer un contrat. Si le contrat, et quand on commence à signer un contrat, on le lit, on l'aime, on ne l'aime pas, et, bon, des choses qui nous vont, qui ne nous voient pas. Si on a la volonté de le signer, c'est parce qu'on a la volonté de travailler ensemble. Donc, le moment où vous signez le contrat, c'est bien, mais c'est après. C'est après que le contrat se met à l'œuvre et que tout marche, que voilà. Et qu'on avance. Et comme vous le dites, pendant 12 ans, il n'y a aucune obligation. Les élus du syndicat mixte décideront de ce qu'ils veulent faire, prioriser, remettre en avant, travailler, etc., insister sur, et voilà. Et il n'y a pas obligation de tout faire, il n'y a pas obligation d'avoir des résultats brillants, il n'y a pas de. La seule obligation, moi, à mon avis, c'est celle de vouloir travailler ensemble. Voilà. Et ça, si tout le monde est d'accord là, il y a un plan stratégique que vous nous avez fait, dont vous nous avez fait part, qu'on a traduit sous forme de part, sous forme de projet de charte, pour qu'il soit utilisable dans ce sens-là. Mais on le disait à la Bouchiac, avec le Guilissac, vous savez, on ne fait que prolonger le travail qui a déjà été fait sur ce territoire, à travers le SMAP. Derrière, on prolonge, on essaie d'amplifier ce résultat avec un outil qui est peut-être aujourd'hui plus alerté, etc. Mais c'est tout. Ça ne va pas guère plus loin. Je veux dire, c'est. Et quand Luc dit que moi je pense que c'est une agence de développement qu'on monte ici, qui s'appelle Parc Naturel Régional, ben oui. Et puis voilà, le travail commence au moment aussi d'achat. Après, elle dira 12 ans, elle changera, vous l'adapterez, vous la changerez, etc. Au fur et à mesure des renouvellements. C'est la vie des parcs.
En tout cas, c'est vraiment.
C'est parce qu'on vous propose. Les gens du pays, les indigènes, on les refoule. Hein. L'argent passera là avant.
Hein. Oui, enfin là, l'argent
passera là. Et les gens du pays,
de côté. Là, ce qu'on vous propose, c'est travailler justement dans
le. Je sers l'argent. Les salles.
Là où là où je fais aboutir le projet, et vos élus sont là pour vous dire que quand vous formez un projet et qu'ils mettent en place un projet sur un parc ou sur un territoire comme ça, avec une stratégie, ben généralement, les fonds, l'argent, il vient aussi sur ces territoires-là, et c'est des faits exprès. Si vous le lisez comme il faut, vous verrez que l'idée, c'est quand même de remettre de la plus-value sur le territoire. Ah oui, mais on peut toujours faire un coup, mais il faut s'y atteler, essayer de le faire, les élus sont là pour faire ça, à travers les porteurs de projets, les aider. Pas les plus récents.
Bon, moi je vois que cette séance sur le parc, bonjour à tous, cette séance sur le parc intéresse parce que cette salle, monsieur le maire, elle est pleine, tu as eu plein de chaises, c'est bien. Posez un certain nombre de questions. Vous avez raison de poser des questions. Nous essayons d'apporter les réponses. Quand vous dites l'argent, j'ai entendu ça tout à l'heure, l'argent passe à là. Quel argent? L'argent de la région? Oui, l'argent de la région, il y en a. Heureusement, si nous ne le prenons pas, ça ira ailleurs. L'argent, alors, je vais préciser une chose. Alors, le SMAT, lui, a fonctionné pendant 30 ans. On a fait un essai qu'il faut transformer aujourd'hui. Puisque ce SMAT a apporté un intérêt général sur l'ensemble du Haut-Allier. Un intérêt général sur l'ensemble du Haut-Allier. On l'a conduit. Aujourd'hui, il arrive peut-être au bout de ce qu'il pouvait faire. Il faut passer à une autre stratégie. Il faut passer à un autre projet. Ce projet, on le propose. Ce n'est pas le projet de nous, ce n'est pas notre projet, c'est le projet du territoire. Or, l'argent dont vous parliez, je le dis souvent, si on ne le prend pas, quand il passe, il ne passera plus. Et nous n'allons pas augmenter les impôts pour cela, parce qu'il y a eu 3,20 € sur le SMAT, là on aura 3,50 € par habitant. On n'a pas bougé ça depuis 10 ans. Donc il ne faut pas laisser croire qu'on va prendre l'argent dans la poche des contribuables. C'est pas vrai, c'est faux. Alors, il y a l'argent qui vient des communes, des régions, sur le plan du fonctionnement, et il y a l'argent des actions. Si nous n'avons pas d'action, nous n'aurons pas d'argent. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et demain, ce territoire, qu'on dit parc, alors, comme cela, on va nous parquer. C'est le contraire. Si on n'a pas de projet de ce type-là, le territoire sera fermé. Sera fermé sur l'extérieur. Donc, moi, personnellement... J'exagère pas du tout. Après la vie que j'ai vécue sur le territoire, je sais que ce territoire, il a besoin d'être magnifié, d'être secoué, de se présenter ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, il a été dit d'ailleurs, on n'est pas dans une zone urbaine. Les zones urbaines vont se développer. Notre territoire, s'il n'a pas de projet, il ne va pas se développer. Alors, on ne va pas tout faire, le parc ne fait pas tout. Il est en partenariat avec les autres. Il est en partenariat avec les chambres consulaires, en partenariat avec les communes, avec les collectivités. Mais vraiment, je vous pose la question, si on n'a pas un projet sur ce territoire, je parle du territoire, évidemment, du Haut-Allier, celui qui a été décrit tout à l'heure, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera. J'ai peur pour les lendemains. Bon, je ne serai plus là pour y être dedans, mais comme certains d'entre nous, mais que feront nos familles, nos enfants, nos villages? Je pose la question. Méfions-nous de parater le train. Méfions-nous de parater le train. Alors, on a dit, il y a peut-être d'autres projets. J'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Mais ce projet de parc naturel régional, et non pas parc national, comme l'a souligné Luc, eh bien, c'est un projet qui est vraiment à sa valeur. On nous demande de bien examiner, de bien lire ce qu'il y a dedans. On peut se tromper, je ne dis pas le contraire. On peut se tromper, mais lire ce qu'il y a dans la charte, c'est vraiment approcher ce qui peut se passer ou ce qui se passera sur ce territoire. Vraiment, je réponds à cette question avec beaucoup de convictions, parce que j'y crois vraiment. Et je ne veux pas amener, moi personnellement, après une vie passée sur ce territoire, je ne veux pas amener ce territoire dans un cul-de-sac. Ça ne serait pas normal, et ça ne serait pas mon intention du tout. Voilà, je veux dire ça, mais on ne peut pas parler d'autre chose, on ne peut pas aborder d'autres sujets.
Quelle est la position des communes de Haut-Roux?
Vous voulez bien prendre le micro? Attendez, vous voulez bien prendre le micro? Il y a une question là-bas.
Moi, ça concerne la pêche.
Oui.
La rivière d'Allier, c'est une rivière de première catégorie. Oui. Elle est non navigable. Est-ce que c'est possible qu'une rivière de première catégorie soit navigable?
Oui.
Parce que le problème, il y a l'hôtel de paix, et le problème, il y a la pêche. Ça ne va pas ensemble, la pêche et l'hôtel de paix. Il y a des règlements, personne ne le fait respecter.
Effectivement, la seule rivière navigable sur notre territoire, c'est la Lys, effectivement. Et elle est en première catégorie jusqu'à Saint-Arpont. Il y a une portion qui n'est pas navigable, d'ailleurs, hein, sur la Lys. Et puis il y a une portion qui est navigable pour les sports de ville. Il y a un arrêté, donc il y a eu, je dirais, vous connaissez ça peut-être mieux que moi, mais il y a eu, je dirais, des conflits, justement, entre pêcheurs et pratiquants de sport d'eau vive. Il y a eu tout un travail de concertation et d'essayer de faire vivre les deux activités sur cette rivière Allier. Aujourd'hui, il y a un arrêté de préfectoral, hein, qui vient traduire cette logique avec des quotas des heures de navigation, des heures où c'est autorisé, vous ne savez pas, des quotas, des lieux d'embarcation, on ne peut pas embarquer, etc. Vous dites, monsieur, qu'effectivement, et ça a été une remarque qu'on a reçue, sans doute par vous, par les fédés de pêche, ou, voilà, qui était de dire, attention, on constate une tendance au laisser-aller sur le respect des règles qu'on s'est fixées. Notamment par des gens extérieurs au territoire qui... Bon, et bien dans la charte du parc, vous lisez la disposition 326, alors c'est pas qu'il y en a 300, hein, c'est l'ambition 3, le verbe 26, et qui dit justement que pendant la période sensible, le parc pourra effectuer, aux côtés des fédés de pêche qui font déjà un petit peu de surveillance, une mission de surveillance et de sensibilisation aux heures d'embarquement au respect des règles.
L'année dernière, j'avais fait une proposition, par exemple, la pêche toujours faire, canoë toujours à faire. Ouais. Comme ça, les pêcheurs, c'est tout, tu devrais faire canoë sur la rivière.
D'accord. Alors ça, typiquement, vous voyez, ça répond aussi un petit peu à la demande de monsieur en disant, on ne tient pas compte des...
On paye un droit, nous, les pêcheurs, pour accéder à la rivière.
Absolument.
On paye un droit. Le canoë ne paye pas un droit pour naviguer sur la rivière.
Mais l'idée du parc, alors l'idée de la philosophie du parc, c'est d'arriver à trouver des accords. Et moi, je vois, monsieur, que vous êtes dans une logique d'accord, puisque vous dites...
Je me promène tous les jours sur les bords de l'Allier. L'année dernière,
oui.
C'est du 1er avril au 15 octobre,
oui.
Les canoës sont autorisés, ma mémoire est bonne. 1er avril, 15 octobre, les canoës sont autorisés. Oui. Après, c'est interdit.
Oui. Voilà. Donc l'idée.
Des prières avant, avec ouais. Les voilà. Personne n'est intervenu, ça a été signalé,
Alors là.
La chose qui était arc-en-ciel, on va la nommer, avec je ne sais pas combien de canoës, sur la nuit.
Donc le parc là, alors quelle est la. Qu'est-ce que.
Alors écoutez, il faut être très libre, parce que. Là, ouais. Je l'ai lu, mais n'importe qui l'avoue. Alors là, c'est
votre
truc.
Oui, mais le parc ne mettra pas des PV. Hein,
non, mais le SMAC, quand même, est là pour intervenir.
Alors, après, le SMAC répondra. Mais ce qui est inscrit comme stratégie dans la charte du parc, et si on crée ce parc, il faudra le faire, c'est que, surtout dans la période estivale, il y ait des agents du parc qui soient là pour veiller aux bonnes pratiques.
Il faut bien comprendre que les gens qui vont agir une semaine de canoë, ils ne vont pas se lever tous les matins à 5 heures pour aller à la pêche.
Mais attendez, je ne comprends pas ce que vous dites. Là. La personne qui loue un gîte, si elle connaît les règles, si dans le gîte, il y a les règles d'utilisation du canoë.
Il y a un panneau, coucheur pour vous. Alors, vous prenez la jonchère, il y a un panneau qui est marqué le règlement, les passages dangereux.
Voilà.
Alors, à chaque fois où c'est que démarrent tous les canoës et arrêtent tous les canoës, il n'y a pas un panneau qui explique la réglementation. Elle est à la jonchère et elle est à la tête du vivant.
Non, ben,
pourquoi il n'y a pas de panneau?
Ben voilà, ben là c'est une proposition d'amélioration précise. Ben ça peut se faire.
Oui, mais sur cette question du canoë, du partage de l'eau, des usages de l'eau, nous y avons travaillé pendant des années. La préfecture, alors la société, les sociétés de pêche, et la fédération de pêche et les canoëtistes, enfin les mouvements de canoë, nous sommes arrivés à un accord. cet accord est globalement respecté, de la part et de l'autre, d'ailleurs, il faut le dire. Il est respecté globalement. Nous avions des gendarmes installés à Monistrol d'Allier que nous avions payés, ils n'y sont plus, mais il y a aussi des gardes sur l'Allier. Donc, je crois qu'il faut quand même ne pas dire, que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne quand même. Mais je suis prêt, moi, en tant que président du SMAT, à être en rapport, je ne sais pas si vous êtes président d'une association de pêche, à venir sur place pour voir s'il y a des problèmes qui se posent, car il peut y en avoir qui se posent, on n'a pas derrière chaque catégorie, hein, il peut y en avoir.
Vous pouvez d'abord noter, mettre un panneau à chaque courant, et un panneau qui est à Saint-Étienne-du-Vivant, et puis à la Beaufère.
Mais vous avez. Je vous donne totalement raison sur ce plan-là, puisqu'il y a une nouvelle organisation pour mettre des panneaux et de la signalisation sur les. Je vous donne raison, on est en train de penser de non pas de les faire, on est en train de les composer, ces panneaux, pour qu'ils soient en route. Il y en a qui ont été enlevés, d'autres qui ont été effacés, il faut les mettre en place. Mais je voulais dire une chose. Tout à l'heure, j'ai vu qu'on applaudissait quand on a dit les pêcheurs payent une carte et les canoës ne paient pas de carte. Ne paient pas de carte. Je rappelle que les associations ou les sociétés de canoës paient des impôts et ils ont des salariés. Donc, d'un autre côté, ils paient aussi. Ils paient. Je peux vous trouver. Ils paient. Je ne veux pas dire le contraire. Là, je ne vous laisserai pas dire le contraire. Je ne vous laisserai pas dire le contraire parce que là, je suis en plein. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ils paient des impôts. Ils paient des impôts de toutes sortes, des impôts locaux et des impôts sur revenus. Donc, je crois qu'il ne faut pas laisser dire ça. Ben, mais vous disiez le contraire tout à l'heure. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ça quand même. Non, mais s'il y a un problème, monsieur, s'il y a un problème sur l'Allier, il faut nous le dire. En réunion peut-être, mais plutôt nous le dire de façon à ce qu'on vienne pour voir le problème qui se pose. Car nous voulons vraiment que les usages de l'eau soient respectés pour chacun.
D'autres questions ?
J'en avais une autre, c'était concernant le saumon.
Il y en a une autre. J'avais parlé de l'eau.
Madame Brennan, Paul Mandel, vous chef d'Amicor. Moi, j'étais SNCF, donc quand on parle de la ligne, ça m'intéresse. Mais je voudrais savoir la position des communes de Haut-Rou, Saint-Bonnet-de-Montereau, et la valeur que j'ai sur le projet-là.
Pour le moment, vous savez, vous n'avez pas de l'hiver.
Nous avons rencontré les maires au cours d'un certain nombre de réunions. Alors, il y avait un maire, et parce que vous avez cité la commune tout à l'heure, qui était totalement opposé. Le nouveau maire n'y est pas du tout de la même manière. Il a compris. Il est venu aux réunions, il a entendu, il a essayé de partager avec son conseil municipal. C'est ce que nous voulons faire. Quand nous venons dans les réunions, c'est pour expliquer un certain nombre de choses. Il ne faut pas être opposé d'entrée, je crois qu'il faut chercher à comprendre. On l'a fait sur la Lozère, et on le fera encore, puisque il n'est pas encore fini. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait plusieurs centaines de réunions, c'est vrai. C'est un peu difficile, des fois, à comprendre et à expliquer. Mais on cherche à répondre aux questions, celles que vous posez la vôtre tout de suite.
D'ailleurs. Il y a des associations de moto. Il y a des associations de moto dont ils sont très.
Vous êtes copain avec l'ancien maire de la Valadjie, non? Oui. Pas trop.
Mais vous souhaitez de parler de ça. Bon, l'ancienne mairesse de la Valadure, on l'a bien connue, on l'a vu en réunion plusieurs fois, elle nous a interpellé sur les motos. Parce que je suis pratiquante presque autant que moi de moto, et c'est parfait, mais elle ne fait pas sur le bitume, elle le fait au. Donc voilà, on est dans le cadre d'un loisir. Et dans ce cadre de loisirs, nous, on a décidé, le bureau, l'association, d'aller discuter avec les gens qui étaient en capacité de discuter des loisirs motorisés. On a vu les ligues sportives, on a vu les clubs moto, on a vu des pratiquants, des non-pratiquants, etc. On a passé pas mal de monde. Et puis, vous êtes non-pratiquant, on aurait pu vous interroger. Mais, avec dommage, on aurait pu vous interroger aussi. Pour voir si ça vous embêtait d'entendre les motos souffler sous vos fenêtres, il y en a qui le trouvent, il y en a qui ne trouvent pas, voilà, il y en a qui pratiquent, il y en a qui ne pratiquent pas. C'est pas grave. On est au même niveau que la pêche, je pense, où on a été voir les APPM, etc. Parce que le parc, de toute façon, ne va pas effacer les problèmes. Mais en tous les cas, il va vous permettre d'en discuter d'une manière, moi j'espère, un peu dépassionnée. Quoi. On va pouvoir parler de ça, on parlera sûrement du loup, on parlera sûrement d'autres choses. Des choses, voilà, qui bricolent un peu, voilà. Mais c'est normal, parce que sur ce territoire, il se passe des choses. Et il faut que les choses arrivent à se passer de manière consensuelle, où tout le monde s'y retrouve. Voilà, c'est le but de signer un contrat. Je signe un contrat avec moi. On n'est pas content ni l'un ni l'autre, parce qu'on n'a pas gagné, ou moi ou vous. On a gagné ensemble. C'est ça le but du truc. C'est tout. Donc, moi, l'ex-mairesse de la Vallée, je m'en ai à voir pour qu'elle nous dise maintenant si elle est d'accord avec ce qu'on écrit avec nous, les lignes de montant. Parce que c'est pas moi qui ai écrit dans la charte. Voilà, les motos ceci, les motos cela, vous trouvez l'article, je ne sais pas, je dois vous citer l'article. Mais, en tous les cas, mais c'est les lignes de contrôle qui sont venus nous dire, voilà, nous on aimerait que ça soit comme ça. Ils avaient un gros problème, les motards, moi je le partage tout à fait, c'est que souvent ce sont des gens qui ne sont pas du territoire, qui viennent sur les chemins et qui font mauvais goût. Parce qu'ils consomment notre espace, votre espace, et on n'en tire rien. Et les lignes de moto perdent en plus en adhérent et en image pour eux. Parce qu'on dit, c'est comme un bouton qui perd, on connaît ce truc. Et du coup, on met un barbelé au milieu du chemin. Et ça leur plaît pas. Et ils ont raison. Et j'espère qu'on pourra les aider à ça.
Et quand ils sortent, mais ils ont quand même des propriétés. Hein.
Ben, peut-être, plus sûrement. Oui, madame.
Attendez,
vous n'avez
pas
Ah non, mais elle est compliquée. Je crois qu'elle a rebondissé sur le.
Vous dites tout de suite, c'est... Mais ce que je voudrais, c'est que les clubs de moto ou les fédérations contribuent aussi à la réflexion des sentiers, des chemins, qu'ils abîment.
Voilà, alors, oui, bien sûr. Alors,
je ne suis pas du tout contre eux.
Ils ont. Non, mais moi non plus. Mais on a ce discours avec eux, c'est-à-dire qu'à un moment, ils aident à ouvrir les chemins. Et ça, c'est une réalité. Les gars en moto aident à ouvrir les chemins qui seraient fermés s'ils passaient pas. Il y a d'autres chemins, très certainement. Il y a des rotions sur le chemin, il y a des dégâts, il y a des ornières de fait. Voilà, ben, il faut trouver une solution pour faire utiliser les gens, utiliser les compétences de chacun pour mieux. Et ça peut être ça.
Alors justement, la méthode parc là-dessus, dont parlait Lionel en espace de dialogue, etc., c'est que sur un certain nombre de sujets sensibles ou importants, comme les activités de nature, là, hein, on vient de passer un quart d'heure entre les canoës, les pêcheurs, les motos, sur les activités de nature, est écrit dans la charte du parc, justement, qu'on va créer un espace, un groupe de travail, de réflexion, mais concret, hein, pas comme ça, mais qu'on appelle un atelier de travail dans lequel il y aura des représentants de chaque activité. Et que ce groupe devra travailler ensemble et il devra être aux côtés des maires qui ont souvent notamment le pouvoir et la responsabilité de dire les règles d'utilisation de l'espace sur les chemins et ailleurs. Et que là où il y a des problèmes, soit par exemple sur une question de comme vous disiez, de règlement non respecté sur une rivière, là où il y a un problème sur un chemin où visiblement soit il est fermé, soit il est ouvert, soit il s'y passe n'importe quoi, etc. Cet atelier du parc, les maires, vous pourrez saisir l'atelier du parc qui viendra, alors avec les gens concernés par le problème, si c'est un problème moto, de conflit par exemple entre un usage agricole et un usage moto, par exemple, ben, il y aura de l'atelier viendra avec le parc le responsable moto, enfin moto, véhicule motorisé, hein, quad, etc. Et puis le responsable agricole. Et pour justement essayer de trouver des solutions, soit des solutions locales, si c'est vraiment un problème local ou local, soit de se dire, zut, là, on a un problème général qu'on n'a pas vu et il faut qu'on trouve. Comment faire respecter, par exemple, sur tout le fil de l'Allier, la réglementation, si on s'aperçoit par plusieurs remontées comme les vôtres, qu'elle n'est pas respectée. Et cet atelier travaillera ces sujets-là, mais pas en stigmatisant les uns, en disant il y a les bons d'un côté, il y a les méchants de l'autre, hein, mais en disant il faut qu'on arrive à vivre ensemble sur ce territoire. C'est quand même pas si compliqué que ça, mais il faut le faire. Et le parc qui va donner cet outil-là aux maires,
aux communautés de communes ou à des acteurs professionnels qui voudraient le saisir.
Je donnerai bonjour à Mme Croce pour moi. Pauvre Gabriel. Monsieur avait une question.
Bonsoir, je suis Jean Blanc, j'habite de nouveau au monde. Alors, une observation à faire à monsieur qui nous a présenté. Vous avez montré plusieurs fois des paysages et vous n'avez jamais dit quel était le lieu dit. Alors, c'est un peu, voilà, vous avez parlé de Monistrol, vous avez parlé de Pondaléras, oui, j'ai rien contre, c'est normal.
Mais j'ai pas dit que c'était Nouveau Monde.
Non, mais je peux dire le Nouveau Monde déjà pour vous. Et là, je voudrais savoir s'il y a des représentants de la Lozère. Apparemment, personne. Alors, je vais vous dire, puisque j'habite ce magnifique village qui est classé, je fais tout pour que ce village vive.
Ah, c'est bien.
Je me bagarre régulièrement, notamment avec l'Empereur Archer, pour faire évoluer les choses. Notre gros problème, c'est que nous avons un village qui est partagé en deux sur deux communes. Et l'autre commune en face, la Lozère, malheureusement, Chaperoux ne l'intéresse pas.
D'accord.
Alors, c'est différent, je pense que ça les intéresse.
Il faut parler franc. Parler franc.
Moi aussi, je parle franc.
Donc,
quand on a été en réunion en Lozère, on a eu les bureaux du Zérien, les représentants de la Lozère, le Chaperoux n'était pas...
Non, mais peut-être pas. Mais le Nouveau Monde, pourquoi qu'il soit ignoré? Parce que le Nouveau Monde, c'est la commune de Saint-Aron.
Je suis d'accord.
Dans le temps, à Saint-Aron, le train s'arrêtait à Chaperoux. Il desservait la Haute-Loire et il desservait la Lozère. Il y avait des taxis de Chambon-Château, de Grand-Rieux, etc. Bon, maintenant, le train s'arrête moins souvent, c'est vrai. Mais bon, ça, il faudrait peut-être recommencer. S'il s'arrête à Lérins, il n'y a pas de raison qu'il ne s'arrête pas à Chaperoux.
Mais c'est pas une très bonne idée.
C'est pas parce qu'il y a un super hôtel à Pondaléras. Ah oui, mais il faut se défendre. On en arrive là, il faut se défendre. Donc on a des atouts pour se bagarrer à chaque fois. Sur les deux communes, je vais d'abord parler d'un sujet. Après, vous avez parlé des aides que vous accordez, que les communautés de communes accordent pour la rénovation des bâtiments. Si vous voulez que les gens viennent dans nos lieux-dits, il ne faut pas accorder, moi, à mon avis, il ne faut pas accorder les subventions uniquement aux résidences principales. Parce que je suis le premier concerné, mais je ne peux pas parler d'un cas particulier. Et on ne peut pas, si on n'a pas d'aide, refaire une chaudière, refaire l'isolation, etc. Et si on pouvait, on l'ouvrait. Et il y a des gens qui vous demandent des locations. Moi, j'habite au bord de la nationale. Il y a plein de gens qui s'arrêtent, qui me disent où faut s'adresser pour avoir un logement une semaine. Ben, j'ai dit, allez, à Pradel, il y a un comité de... Voilà, bon, je renseigne. Mais si on vous accordait ces aides, et ben, je vous dis, moi le premier, moi ma mère est en maison de retraite, donc elle est propriétaire de sa maison, j'ai aucune aide. Elle ne viendra plus jamais dans sa maison, mais je ne peux pas faire de travaux parce que je suis obligé de taper dans mon financement personnel. Sans aide, ce n'est pas possible. C'est des sommes qui s'élèvent à 20 000 euros. Bon, je ne peux pas débloquer 20 000 euros comme ça. C'est plus. Moi, je pense que ça il y a quelques questions, vous n'avez qu'à travailler des artisans.
Mais tout à fait, ça peut être tout à fait l'idée d'un projet comme il y a eu sur le parc des volcans, c'était une chaudière. Une chaudière quoi? Voilà, l'objectif. Mais là, les élus ont présenté l'idée de mettre 1000 chaudières bois en 5 ans, ou en 4 ans, je ne me rappelle plus, sur le territoire du parc. Là, c'est tout à fait légitime, et ça serait tout à fait légitime que une, deux communes, trois communes, peut-être toutes, se réunissent, les maires disent, ben voilà, ça c'est un projet, louer, faire de la location, etc., rénover de la location, ils amènent au parc, le parc travaille là-dessus, et vous finissez avec un projet, type, voilà, 1000 logements l'année prochaine, 1000 nouveaux logements, et bien, ça permet au parc d'aller chercher de la subvention, faire le tour de ses partenaires, des partenaires financiers, donc les quatre. Et pour répondre à monsieur, au fait, c'est que 1 euro d'argent local par habitant se transforme en 6 euros dans les projets par la solidarité des régions, des départements, de l'État et des communautés de communes. Et les communes. Donc voilà, on arrive à ça, on arrive. C'est cet effet de multiplicateur qui est intéressant, l'argent européen, etc. Il va y avoir un gros appel à projet sur l'énergie, les territoires à énergie positive. Voilà, on peut imaginer qu'un groupe de communes prenne cette idée-là, dise, ben voilà, ils mènent un projet tout le long. C'est tout à fait légitime.
profondeur.
C'est une priorité.
Donc ce point-là est résolu. Je vais passer au deuxième. Je suis en train de me garer avec monsieur le maire pour que. Vous allez voir, vous aurez peut-être sûrement de quoi l'aider. Pour que les téléphones portables passent dans notre coin. Ça, c'est pas normal. À l'heure de la 4G, maintenant, partout, on devrait avoir un téléphone.
C'est pas la même chose. D'accord. Entre la téléphonie et puis Internet, voilà, c'est pas pareil. Mais en tous les cas, oui, c'est le problème de couverture de zone en zone rurale.
Vous avez des gens qui sont en camping, ils n'ont que ça. Hein. Donc, ils se font mordre par un serpent, problème. Il y a un accident, problème. Donc déjà, téléphone portable.
Monsieur le sénateur, je pense que là-dessus, bon, c'est pas le parc qui va installer la 4G. Hein,
mais
en revanche, quand on disait tout à l'heure que c'est très intéressant pour un territoire de travailler dans le parc, il y aura les régions, les départements et toutes les communes, les communautés de communes, avec tous ces élus-là. Chaque année, tout le monde se réunit pour voter le budget, pour traiter des sujets, etc. Vous savez que les régions et départements sont impliqués dans le développement de la téléphonie et la couverture du territoire. Donc vous, élus locaux, vous aurez la possibilité chaque année de pointer la liste des zones qui restent encore des zones d'ombre devant les élus départementaux et régionaux qui ont peut-être plus l'accès à la négociation avec les opérateurs de téléphonie et de mobilité.
J'ai compris que vous n'étiez pas un élu local, mais vous avez peut-être dans votre famille un élu local.
Oui, vous avez connu, je pense.
Je crois que oui. Dites-moi, vous parliez du train, je vais revenir sur le train, parce que c'est important. Vous savez qu'on fait, peut-être vous ne l'avez pas vu encore dans les journaux, mais le train va, qui a été à 40 à l'heure en Cherbourg-Boulangoy, va venir à 70 à l'heure. Vous l'avez vu, je pense, ces jours-ci, à partir de demain, à partir de 1er mai. Bon, c'est pas tout, il faut continuer. Alors, cette ligne SNCF, cette ligne qui a failli disparaître complètement. Il y a 7 ans de cela, on nous a annoncé la ligne va fermer. Donc on a monté cette association des élus locaux pour la défense de la ligne Clermont-Ligne, Marseille d'ailleurs. On a monté cette association et on a réussi, avec l'aide de la région, à convaincre la SNCF qu'il fallait la garder. Et à l'effet, pour le temps. Aujourd'hui, on a à peu près 7 ans que cette ligne va rester nationale. Enfin, c'est important qu'elle ne devienne pas à la charge des collectivités ou des régions, etc. Et grâce à la région, je le dis, grâce à la région et grâce au futur plan de la région, il va y avoir de nouveau des travaux sur cette ligne pour qu'elle fonctionne. Alors, le grand problème, évidemment, c'est qu'il y a des trains, mais il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Ça, il faut reconnaître, il n'y a pas beaucoup de voyageurs, hélas. Il faudra qu'on demande à la SNCF, qu'on travaille avec la SNCF, pour que cette ligne ait une capacité à inviter les voyageurs qui sont à Nîmes de ne pas passer par Lyon, mais de passer par cette ligne. C'est beaucoup plus court et beaucoup moins cher, d'ailleurs, en plus. Et cela, on y travaille. On va encore se réunir ces jours-ci. On fait quelques actions de temps en temps. Moi, je ne sais pas si vous avez vu ces actions que nous faisons ici et là. On a fait des actions un peu coup de poing. On en a fait une à Nîmes, on en a fait à Langogne, on en a fait à Langeac. On est ensemble dans cette opération. Moi, si vous avez vu ma tête, vous la voyez sous un drapeau de la CGT. Ça m'est égal. Ça marche très bien quand même. On a pu à ce moment-là réussir à gagner quand même du terrain pour que cette ligne existe et que les trains continuent à y fonctionner. On nous assure, je le dis à Lionel Roucan qui est à la région, on nous assure désormais que le Seine-Nol, le Seine-Nol va rester. On avait grand peur que le Seine-Nol disparaisse. Alors après, il y a tout à l'heure, il faudrait qu'il s'arrête dans les gares. Si nous arrivons à donner de la vie à cette ligne, c'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. En tout cas, on peut créer, à partir des projets, on peut créer un trafic voyageur sur cette ligne, qui sera peut-être pas assez de l'autre, ça peut être autre chose. Sur le fret, on a le fret bois, qui passe deux trains de bois toutes les semaines, qui amène le bois à la cellulose du Rhône. La cellulose du Rhône va venir ce mois-ci, d'octobre, pour pouvoir doubler le nombre de trains sur la ligne. Et voir, dans quelques années, avoir ce qu'on avait il y a un temps, un train par jour de bois qui descend. Ça, c'est l'activité, mais il faut aller le chercher.
C'est pas toujours facile, je vous avoue, pas toujours facile, mais il faut aller les secouer, il faut aller les tirer par la manche pour que ça réussisse. Mais enfin là, grâce à la région, d'ailleurs, je l'avais dit, Lionel, nous avons là beaucoup d'espoir sur cette ligne. La ligne qui est sur l'autre côté, qui s'appelle la ligne de l'Aubrac, non, celle de l'Aubrac, est un peu moins sûre par rapport à nous. Nous, nous sommes sûrs qu'elle va rester nationale.
Ben c'est bien. Alors, je vous amène de l'eau au moulin.
Je complète 2 minutes, on va dire. 2 secondes sur ce que vient de dire Timisac, parce que ouais, la semaine dernière, j'étais à Lyon voir. Vous savez qu'on doit normalement fusionner nos régions. Donc, on a discuté beaucoup du TER, parce que c'est des postes très très importants en budget, et puis en service aussi à la population. Et donc, nous, on a prêché pour l'ouverture nord-sud, et pas clairement sport. Lyon et on descend. Donc justement par la ligne du Sept-Nord et par la ligne de l'Aubrac. Et en particulier, moi, voilà, quand t'as bien, Aurillac-Brive, voilà, il ne faut pas que là-bas on oublie du côté de Tarare, quoi. Comme le Sept-Nord ici. Donc là, on a obtenu gain de cause auprès du président Kéran en disant ces deux lignes-là, et en tous les cas c'est le Sept-Nord, parce qu'en plus il y a une capacité de fret derrière, eh ben, elle doit être absolument sauvegardée. Alors après, oui, il y a moins, il n'y a pas grand monde. Et malheureusement, et de l'autre côté, plus le train est fréquent, plus il y a du monde aussi. Hein. C'est ça aussi, quoi. C'est parce que quand on enlève des fréquences de train, c'est-à-dire des arrêts dans les gares, il y a moins. À un moment, c'est un peu le truc qui se mord la queue. Et moi, je pense que là, le parc peut avoir un bel effet sur le rabattement vers les gares. C'est-à-dire organiser, que le territoire s'organise, pour dire, ben nous, on est capable d'amener du monde. Et on est capable d'amener des choses vers les gares. J'espère sur les gares de nouveau monde, peut-être sur Canon. Mais voilà, c'est le nouveau boulot qui nous attend. Nous, région, on a sécurisé au maximum, on a essayé de sécuriser au maximum, et la ligne nationale, dire c'est une ligne nationale. Dire par rapport à Lyon, c'est des lignes qui existent, qui sont des lignes nord-sud, sud-nord, etc. Et ça, on ne veut pas le faire. Donc voilà, après. Le territoire, il faut qu'il s'organise et qu'il essaie de s'organiser pour amener du monde vers le train.
Si le train s'arrête à Château-Rouge, les gens le vont, parce qu'actuellement, ils descendent à la Lamboy. Ils
vont aller chercher des voitures pour aller chercher des voitures. Mais bon, c'est pas impossible. Quoi. C'est ce qu'il faut se dire. On signe le contrat et c'est pas impossible.
Vous avez la possibilité aussi de faire des circuits vélo, hein, c'est demandeur. Hein. Il y a des gens qui demandent. Il y a
beaucoup de gens qui viennent à Château-Rouge avec les vélos, avec les canoës dans le train, il y a plein de choses. Hein,
et mais c'est pas très court. J'ai même dit au maire, il n'y a pas longtemps, qu'il y a des gens qui sont venus faire du parapente. Vous avez déjà vu des gens faire du parapente à nos coins. Eh bien, ils partent, ils ont essayé, ils partent du Thor, du village du Thor.
Ah ben oui.
Et il y a encore un problème, c'est qu'il n'y a rien pour atterrir en bas. Hein. Voilà, donc il faudrait peut-être aménager peut-être les gens.
Les associations sportives, ça, vous pouvez bien nous voir. Je vous fais confiance, vous nous invitez souvent. Bon, je ne fais pas ça. Oui. Madame
Oui, madame Lévent-Lagrasse, j'aimerais rebondir par rapport au point. Comment valoriser les statistiques alors que quand on monte dans le train à Miras pour aller à Château-Loup, par exemple, pour me balader, je reviens à pied, systématiquement, le contrôleur ne nous fait pas payer. Alors, est-ce qu'il faut insister pour payer?
On ne peut pas. C'est scandaleux! Mais contrôler le contrôleur, non mais.
Donc, on dit qu'il n'y a personne dans le train, la SNCF dit qu'il n'y a personne, alors qu'on prend le train, mais. Systématiquement, on
ne veut pas ça. C'est bien pire que ça, parce que c'est pas. À la région, la SNCF est incapable de nous donner le nombre de voyageurs.
C'est pas étonnant.
Sur une ligne. Incapable. C'est terrible.
Votre question. Ce que vous disiez sur le. On ne fait pas payer. Nous avons une mauvaise idée en tête. C'est qu'on ne fait pas payer pour que les voyageurs ne soient pas comptabilisés. C'est cela. Mais ça, c'est produit ailleurs. À partir de l'argent, j'ai le même problème. Il y a des fois, on ne paye pas du tout. Ils vont entrer, il n'y a personne, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a personne. Et ailleurs, ça s'est produit. Et l'autre problème, c'est de faire que la SNCF reconnaisse la ligne et il y aurait beaucoup plus de voyageurs. Ça ne serait pas énormément, mais il y aurait beaucoup plus de voyageurs recensés. À Nîmes, si vous demandez un ticket pour l'envol, pour Clermont, on vous fait passer, tu l'as dit tout à l'heure, on vous fait passer par Lyon. Est-ce que c'est normal? Alors, je sais, le train a des ralentissements à cause des travaux. Il y en aura encore un petit peu de travaux. Mais nous voulons revenir à une vitesse normale. Vous savez, c'était tout à l'heure les 70 entre Chapeau-Loup désormais et Antoine. Il reste encore une partie entre Monistrol et Chapeau-Loup, peut-être, où il y a du 40 à l'heure. Et ça devrait se corriger dès cette année 2015. Voilà. Mais vous avez raison de ce